La société Plastinor à Pointe-Boute, victime d'un incendie, semble-t-il criminel. Cette nuit, la salle de vente a été totalement détruite. Le projet d'accord de Bougival est bon pour la Nouvelle-Calédonie, estime le Palika. Le mouvement tenait hier un congrès extraordinaire à Vaud. François Bayrou se donne 2 mois pour finaliser son plan de rigueur budgétaire. Objectif, réaliser 44 milliards d'euros d'économies. Dans la région, les Marquises, la Polynésie et la France marcheront ensemble. Propos de Manuel Valls en visite aux îles Marquises. Le sport et du football, l'aventure s'arrête en quart de finale de l'Euro pour les féminines de l'équipe de France. Elles ont été battues par l'Allemagne. Et puis les meilleurs pilotes de karting du territoire sont actuellement sur le circuit de Nakutakwin. Ils disputent la 2e manche du championnat de Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité ce dimanche, cet incendie qui a ravagé une partie des locaux de la société Plastinor à Pointe-Boute. 500 mètres carrés de surface ont été détruits par les flammes cette nuit. Il s'agit de la salle de vente, Charlotte Coulson.
Effectivement, les pompiers ont été appelés sur les lieux aux alentours d'1h30 du matin, après que des habitants aient entendu des bruits d'explosion provenant du site. Arrivés sur place, les pompiers de Connay, épaulés par ceux de la sécurité civile, ont vite tenté de maîtriser les flammes qui avaient déjà englouti une partie de la salle de vente. Malheureusement, elle a été entièrement consumée, 500 mètres carrés partis en fumée. Les soldats du feu ont tout de même pu limiter la propagation des flammes, celles qui menaçaient les salles de stockage et de production d'une surface d'environ 2000 mètres carrés. Non sans effort, car en plus de la chaleur, les fumées dégagées par le plastique brûlé sont toxiques. Je rappelle que la société Plastinor est en effet spécialisée dans la production de tuyaux en polyéthylène. Des produits qui, s'ils brûlent, dégagent du monoxyde de carbone, dangereux pour la santé. Les soldats du feu, sous le commandement du chef de corps des sapeurs-pompiers de Connay, Silvio Loquet, ont donc dû faire preuve de vigilance.
Toute la surface de vente a été entièrement incendiée. La zone de production et de stockage, elle a été impactée par les fumées qui ont envahi tous les locaux. Ça, c'est très toxique parce que c'est du plastique. Lui, ils vendent des duos, des raccords, beaucoup de matières plastiques. Donc on a été obligé, et c'est normal, d'équiper nos sapeurs-pompiers engagés avec les appareils respiratoires isolants. Donc ça a été très physique, avec une chaleur qui est très intense, avec des hauts risques. Mais en fin de compte, on a pu maîtriser l'incendie et le contenir là où il était. On a eu la chance, on va dire ça comme ça, c'est que cette nuit, il a bien plu. Donc il y a une partie de la fumée qui est restée sur place. Mais bon, il y avait également d'autres espaces-temps où il n'y avait pas de pluie. Donc les fumées se sont propagées. Dans l'axe de propagation, oui, il y avait des habitations. Il y en a qui ont dû se réveiller ce matin avec des véhicules aussi.
Le feu a donc finalement été maîtrisé aux alentours de 5 heures du matin. Son origine est probablement criminelle. Des témoins ont en effet aperçu 4 individus prendre la fuite après le départ de l'incendie. Julien, habitant de Pointe-Boute, fait partie des personnes ayant alerté les pompiers et les gendarmes.
Donc moi, j'étais dans un dock à l'arrière de Plastinor chez des amis là, et depuis 1 heure, on entendait des jeunes taper, crier, taper sur des tôles. En fait, peut-être une demi-heure après, c'est là qu'on a entendu des verres briser. C'est là que moi, je suis monté vers Plastinor et c'est là que j'ai vu un départ de feu. En fait. C'est là que 4 jeunes sont sortis à l'arrière de Plastinor et ils ont sauté la barrière. Mais après, voilà, ils sont partis. Quoi. Apparemment, depuis mardi dernier, ils ont déjà cassé une vitre de Plastinor pour voler. En fait. En ce moment, sur la zone qu'on est Pointe-Boute, il y a énormément de vols de véhicules. Moi, j'ai eu une tentative de vol sur mon véhicule. La zone décapée, elle a du mal à redémarrer. Et là, on brûle une entreprise qui fournit beaucoup de matériel. Donc, ça va pénaliser encore pas mal d'entreprises et qui vont devoir desservir sur la commune de Nouméa. Quoi.
Une enquête a donc été ouverte par la gendarmerie pour déterminer l'origine de l'incendie. Les pompiers sont quant à eux toujours sur place pour surveiller les derniers points chauds.
Au chapitre des faits divers, toujours à l'île des Pins, un commerce situé sur la baie de Cuteau a été victime d'une tentative de cambriolage hier soir. Le voisinage a été alerté vers 21h après avoir entendu des bruits venant du commerce. Ils ont mis en fuite les individus entrés dans l'épicerie par effraction. Une enquête de la gendarmerie est en cours.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Conné, c'est le 98.
L'actualité politique et institutionnelle avec le Palika qui tenait un congrès extraordinaire à Vaud. Il s'agissait avant tout de faire le point sur le projet d'accord de Bougival devant les militants. Le Palika qui s'engage désormais pleinement à défendre cet accord, Michael Juneski.
Un projet bon pour la Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'expliquent en tout cas les responsables de la délégation du Palika. Les négociateurs, devant près de 200 personnes, après restitution des travaux et explication des engagements pris, l'annonce de ce projet d'accord est bel et bien accueillie comme un soulagement pour le Palika. Écoutez Judy Khaled-Selefen, l'un des porte-parole.
Du contexte que l'on connaît depuis un an et même depuis la sortie de la troisième consultation, les militants ont été soulagés déjà de savoir dans un premier temps qu'un projet d'accord a été trouvé et donc on était dans une ambiance, on va dire, positive. Les militants ont validé l'engagement. Ça a été expliqué par les négociateurs que c'était un compromis. C'était un accord qui est équilibré, qui ne satisfait personne, mais qui arrange tout le monde et surtout la Nouvelle-Calédonie. C'est le résultat de plusieurs heures, de plusieurs jours de négociations qui ont été âpres, difficiles. La responsabilité a été prise par nos négociateurs à Paris. C'était important pour les négociateurs d'avoir l'approbation du parti, le soutien des militants, avant d'aller informer et présenter et défendre ce projet auprès de la population calédonienne qui aura l'occasion de bénéficier d'information, de clarification, mais surtout, la population calédonienne sera consultée. C'est le temps aujourd'hui de la campagne d'information sur le contenu de ce projet d'accord.
Si les dernières déclarations, notamment du FLNKS, ont pu de nouveau laisser planer le doute sur ce projet d'accord, le Palika réaffirme, lui, qu'il honorera la parole donnée et qu'il défendra le fruit de ses discussions des 10 jours de Bougival. Même s'il rappelle qu'il restera vigilant à l'ensemble des points du projet, le mouvement indépendantiste lance dès à présent sa campagne pour défendre la perspective de cet accord en 2026. On retrouve Judy Khaled-Selefen.
On s'est tous engagés à porter cet accord. C'est la responsabilité des délégations et surtout des personnes qui ont négocié ce projet d'accord. Et donc cet engagement qui a été pris à Paris, il faut le poursuivre. Donc c'est un appel à tous les responsables qui étaient présents lors de la négociation de porter. Charge à nous de le porter et le défendre. Après, libre aux Calédoniens de pouvoir donner leur avis. Les Calédoniens seront consultés. Donc c'est un premier temps qui est ouvert pour nous, pour tous les responsables qui étaient présents, de défendre ce projet. Et les Calédoniens seront libres d'approuver ou pas ce projet d'accord. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase d'explication. Nous, on s'est engagés pour notre part. On n'a pas l'intention de revenir sur cette parole qu'on a donnée à Paris. C'est un moment historique. C'est le retour avec un projet d'accord des négociateurs. On est engagé dans la négociation depuis 2023. Et cet accord, nous, on a considéré qu'il remet en aucun cas une trajectoire pour l'accession à la pleine souveraineté et à l'indépendance. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que cet accord nous impose à nous, les Calédoniens, de choisir notre avenir. C'est un choix qu'on va devoir faire ensemble.
Notez que Jean-Pierre Djaïwé, également porte-parole du mouvement, avait déclaré dans son discours « Nous nous engageons à le présenter aux populations calédoniennes et à le défendre en l'état. On n'a pas à changer une virgule ou un mot. Il faut le laisser tel quel. » Fin de citation. Le Palika va désormais organiser et lancer sa campagne donc pour obtenir la plus large approbation de la population lors de la consultation prévue en 2026.
Et puis du côté des partisans de la France, Sonia Backès parle de 5 avancées majeures dans le projet d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui a été signé à Bougival. La chef de file des loyalistes les a détaillées dans le magazine Transparence. Michael, elle était vendredi midi l'invitée d'Elisabeth Noir.
Pour Sonia Backès, le chemin pour un accord était très étroit, mais il y a eu un basculement quand les discussions se sont faites directement entre partisans de la France et indépendantistes, sans l'État ni le bloc central. Pour elle, les 5 avancées majeures sont le maintien dans la France, l'absence de référendum, l'ouverture du corps électoral, le rééquilibrage du Congrès et le pouvoir aux provinces. Mais la vraie révolution, dit-elle, c'est que cet accord est pérenne. Il n'y a plus d'échéance référendaire et la possibilité de transfert des compétences régaliennes n'est pas une trajectoire.
C'est pas une trajectoire parce qu'une trajectoire, c'est un espèce, dans ma vision des choses, c'est un espèce de toboggan où finalement on n'a pas le choix que d'aller là où on ne veut pas aller. C'est en l'occurrence, là, la porte est ouverte. C'est effectivement, si un jour on a une très large majorité de Calédoniens qui veut le transfert de compétences régaliennes, il y aura transfert de compétences régaliennes. Mais le mécanisme est suffisamment complexe pour que ça ne soit fait que si réellement, d'une part, la Nouvelle-Calédonie en a les capacités et d'autre part, que la majorité des Calédoniens le souhaitent.
Pour ce transfert des compétences régaliennes, il y a des verrous qui sont une majorité de 66% du Congrès, la faisabilité du transfert et l'accord des Calédoniens. Parmi les sujets qui interpellent, il y a bien sûr la création d'un État sui generis, un État au sein de l'ensemble national et inscrit dans la Constitution de la République française. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, reconnaît Sonia Backès.
C'est effectivement ni un État fédéré, même s'il y a beaucoup de choses qui y ressemblent, mais un État fédéré n'a pas de nationalité propre, donc c'est en soi pas un État fédéré. C'est pas un État associé, puisqu'un État associé, c'est un État indépendant qui est associé avec un autre État indépendant, et comme vous l'avez bien noté, l'État de Nouvelle-Calédonie est dans la République française, donc à ce titre, il n'est pas un État associé. Donc en fait, il est incomparable avec ce qui existe déjà. On crée quelque chose de nouveau, on crée un État de Nouvelle-Calédonie avec des compétences propres, avec une forme de souveraineté, avec la loi fondamentale qui lui permet d'exercer un certain nombre de compétences elle-même, mais on est dans la République française de manière extrêmement claire.
Autre innovation dans ce projet d'accord, la création d'une nationalité calédonienne.
Cette nationalité, elle est inséparable de la nationalité française. C'est-à-dire qu'on ne peut pas n'avoir que la nationalité calédonienne. On est obligé d'avoir la nationalité française. Donc à ce titre, ce n'est pas une nationalité au sens où on l'entend dans un État indépendant. Ça n'est pas que la citoyenneté telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais ça n'est pas non plus une nationalité pleine et entière telle qu'on la connaît dans un État indépendant. C'est encore une fois quelque chose de spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Je pense que les constitutionnalistes qui vont avoir à traiter notre accord vont s'arracher les cheveux. Mais ça demande un effort intellectuel. La Nouvelle-Calédonie demande ça parce que, encore une fois, la population elle est divisée en deux, le chemin il était extrêmement étroit, et l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie c'est, à l'intérieur de l'ensemble national, d'arriver à avoir le temps de construire quelque chose ensemble.
La nationalité était un marqueur pour les indépendantistes, souligne Sonia Baquès, qui a aussi été interrogée sur l'ouverture du corps électoral. Comment a-t-elle été possible ?
Je pense que l'ouverture du corps électoral n'aurait pas été acceptable par les indépendantistes si ça n'avait pas été dans le cadre d'une nationalité et d'un État. Concrètement, on est dans autre chose. On a un État calédonien dans la République française, on a une nationalité et donc on n'est plus dans ce corps électoral qui finalement génère le choix de faire un référendum, l'autodétermination, puisqu'on n'a plus de processus d'autodétermination en soi. Donc l'ouverture de ce corps électoral, finalement, elle ne se fait pas du tout dans le cadre de la contestation qui a eu lieu le 13 mai dernier, puisque, encore une fois, on ne parle pas d'un corps électoral pur et simple, mais de comment on accède à la nationalité calédonienne.
La chef de file des loyalistes se félicite par ailleurs des nouveaux pouvoirs octroyés aux provinces. Elles obtiennent la compétence fiscale et il sera possible de transférer des compétences de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces.
On considère qu'on ne peut plus fermer les yeux sur nos différences en matière de développement économique. On ne peut pas avoir les mêmes méthodes, le même projet de développement économique selon qu'on est dans une province avec 98% de terres coutumières ou dans une province qui génère 91% de la fiscalité calédonienne. C'est juste à un moment donné un constat pragmatique et il fallait une réponse institutionnelle qui soit capable d'apporter des solutions à ce constat pragmatique. Et ce qui est dans l'accord nous convient puisque ça permet à la fois d'avoir la compétence fiscale et d'avoir la capacité d'avoir plus de compétences pour les provinces.
Un mécanisme de solidarité est prévu entre les collectivités calédoniennes, mais il n'y a plus de clé de répartition, ce mécanisme ayant échoué à fixer les populations du Nord et des îles. Sonia Baquès juge par ailleurs insuffisant à ce stade le projet de société et de modèle économique, mais elle a transmis un message au ministre de l'économie et des finances.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vision de la Nouvelle-Calédonie par Bercy a changé avec l'accord. Honnêtement, ils commençaient à en avoir un peu ras-le-bol de nous parce qu'ils nous ont mis sous perfusion et qu'ils se demandent quand est-ce que la perfusion s'arrête. Moi, ce que j'ai dit au ministre de l'économie, c'est que pour arrêter la perfusion à la Nouvelle-Calédonie, il faut mettre un coup de défibrillateur. Le coup de défibrillateur, c'est des grands travaux, c'est un accompagnement sur la filière énergie qui est défendu largement depuis des mois et des mois par Christopher Gigès au gouvernement. Là, c'est le moment ou jamais de développer ça. C'est le moment également de nous aider à apurer nos dettes. L'économie va se relancer avec l'accord. On commence à avoir des signaux, les gens vont évidemment reprendre confiance, mais on ne peut pas repartir, on ne peut pas avoir une relance économique avec les boulets qu'on a au pied, des dettes de la Nouvelle-Calédonie, des dettes de la dette d'Uruam, de la dette d'Enercal, de le SMTU à 22 milliards de dettes, ça veut dire qu'on a un ticket de bus à 500 francs. Comment on imagine que les gens vont aller bosser avec un ticket de bus à ce prix-là? Enfin, on a des choses qui sont insoutenables et donc on a besoin que l'État donne un coup de défibrillateur pour que la Nouvelle-Calédonie reparte.
Sonia Baquès parle d'un bon projet d'accord et elle affirme qu'il n'y a pas eu de pression de la part du président de la République. Elle est revenue également sur tout le cheminement législatif qui reste à parcourir.
Une interview de Sonia Baquès qui sera rediffusée ce soir juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et en vidéo sur notre site internet le www.rrb.nc. Midi et 14 minutes, première pause dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants pour voir le reste de l'actualité.
Le Salon du Tourisme revient le samedi 26 juillet de 9h à 19h au Parc Brunelet à Nouméa. Profitez de l'entrée gratuite pour découvrir les loisirs et les activités touristiques en province sud et bénéficiez d'offres exceptionnelles. Animations, concerts, show cooking, food court et espaces pique-nique seront au rendez-vous. Plus d'informations sur le site de sudtourisme.nc, un événement organisé par l'agence d'attractivité Sud Tourisme.
Jusqu'au vendredi 25 juillet, gagnez un séjour à l'hôtel Le Stanley. Logez une semaine, ensuite Ylang Ylang. Petit déjeuner inclus pour deux personnes offert par l'hôtel Le Stanley. Un cadeau d'une valeur de 242 200 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 25 juillet à 14h. 371 francs le SMS. Profitez d'un endroit calme, proche de la ville, à l'hôtel Le Stanley. L'hôtel vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres et suites climatisées et tout équipées. Profitez aussi de la piscine, d'une vue imprenable sur le lagon et des petits déjeuners. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel, téléphone 23 23 23. Pour jouer, envoyez chance au 40 20. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
La mairie de Païta et le comité des fêtes vous informent. La 27e fête du bœuf est reportée au dimanche 12 octobre en raison des fortes pluies. Rendez-vous en octobre pour partager tous ensemble une belle journée festive. Plus d'infos sur ville-païta.nc.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Il est midi et quart, la suite de votre journal avec Léo Fichou.
L'actualité dans la région, en Polynésie française, où il poursuit son voyage, Manuel Valls a visité les îles Marquises. Les habitants et les élus ont réaffirmé au ministre des Outre-mer leur attachement à la France. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La mairesse de Iwaoa et membre du parti autonomiste Tapura, Joël Frémaux, a déclaré à Manuel Valls que, je la cite, le Marquisien est fidèle à sa terre, à sa culture et à la France. Elle avait auparavant égratigné le projet de République fédérale Maui défendu par le Tavini d'Oscar Temaru. Nous sommes Marquisiens, nous sommes Français et le disons sans trembler, a-t-elle martelé. Elle a aussi renouvelé ses appels en faveur d'une reconnaissance institutionnelle de la singularité marquisienne. En réponse, Manuel Valls a voulu se montrer conciliant. « Je suis venu vous dire que l'État, c'est-à-dire la France, est présent pour vous accompagner », a-t-il martelé. « Les Marquises, la Polynésie et la France marcheront ensemble », a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Cette cérémonie à présent célébrée sur l'ensemble du territoire national, une journée de recueil pour tous les Français et plus particulièrement pour la communauté juive. Depuis 2000, la France commémore la journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l'État français. Elle rend aussi hommage aux Justes de France. Partout en France, des cérémonies d'hommage se déroulent donc ce 20 juillet, y compris ce matin à la Croix de Lorraine, où un dépôt de gerbes a été effectué en présence notamment du haut-commissaire Jacques Billan.
Ce dimanche 20 juillet, c'est une fois encore le souvenir qui nous rassemble, le souvenir de millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs victimes de la folie nazie. C'est aussi le souvenir de tous ceux qui, très nombreux, n'écoutant que leur cœur et leur conscience, sauvèrent nos compatriotes, je parle bien sûr des Justes de France. Le message de cette cérémonie aujourd'hui, c'est de faire encore et toujours comme les Justes ont su le faire à leur époque. C'est lorsque le doute survient, lorsque les heures sont difficiles, il n'y a qu'une façon de voir clair et de rester irréprochable, c'est agir et penser comme l'honneur le commande.
Jacques Billan, haut-commissaire, donc, également assisté à cette cérémonie d'hommage des représentants des autorités civiles et militaires, ainsi que plusieurs élus. L'actualité en métropole, François Bayrou se donne 2 mois pour finaliser son plan de rigueur budgétaire. Objectif fixé pour l'année prochaine, réaliser 44 milliards d'euros d'économies. Le Premier ministre s'est exprimé en ce sens ces dernières heures à l'occasion de son déplacement sur le Tour de France, l'étape du jour qui partait de Pau, ville dont il est le maire.
Il y aura probablement toutes sortes de prises de parole pour préciser, affiner, répondre, tout ça. On a 2 mois devant nous pour que ce plan trouve son achèvement. Ben vous voyez, c'est pas tout à fait le Tour de France, c'est pas tout à fait d'école.
encore que j'avais dit en entrant dans cette fonction que c'était l'Himalaya. Je ne m'étais pas trompé de ce point de vue-là, c'est absolument certain.
Le Premier ministre veut finaliser les arbitrages budgétaires dans les prochaines semaines. François Bayrou prévoit une année blanche pour geler les budgets hors défense et aide sociale afin d'économiser 7 milliards d'euros. S'ajoutent 5 milliards d'économies sur la santé, 4 milliards via la suppression de 2 jours fériés, 5 milliards demandés aux collectivités et près de 10 milliards grâce à la lutte contre la fraude et la suppression de niches fiscales. L'opposition critique déjà ces mesures et une motion de censure pourrait menacer le gouvernement. L'actualité à l'étranger avec l'Ukraine qui propose de nouveaux pourparlers à la Russie et ce, dès la semaine prochaine. Le président Volodymyr Zelensky est disposé à négocier directement avec Vladimir Poutine maintenant qu'il a obtenu des garanties de Donald Trump sur la reprise des livraisons d'armes américaines. Pour rappel, les deux dernières rencontres organisées le mois dernier entre les délégations de Moscou et de Kiev sur un possible cessez-le-feu en Ukraine s'étaient soldées par des échecs. Au Proche-Orient, à présent, l'Union européenne a salué le cessez-le-feu annoncé par la présidence syrienne dans la province du Ceuta, province où plus de 900 personnes auraient été tuées cette semaine, conséquence de violences opposant des combattants druzes aux forces de sécurité syriennes. Pour mémoire, ces violences ont conduit Israël à mener cette semaine des frappes répétées afin de protéger ces druzes tout en empêchant la Syrie de déployer des troupes dans le sud du pays. Midi, passé de 21 minutes, on marque une seconde pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La fin de votre journal Le Sport avec Léo Fichou.
Du football, l'aventure s'arrête aux portes des demi-finales de l'Euro pour les féminines de l'équipe de France, Mickaël.
Et oui, elles se sont inclinées aux tirs au but contre l'Allemagne alors qu'elles menaient 1-0 dès la 15e minute de jeu et que les Allemandes étaient réduites à 10 contre 11. Les Bleus ont craqué peu de temps après, un but à partout après 25 minutes de jeu. Le score en restera là jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but où la gardienne allemande a arrêté 2 tentatives tricolores. La France est donc éliminée en quart de finale. Laurent Bonadeil, le sélectionneur des Bleus.
De la déception et de la tristesse pour les filles qui ont tout donné. Je pensais qu'on avait fait le plus dur en ouvrant le score et cette équipe réduite à 10. Pour reconnaître que l'équipe d'Allemagne a fait un match héroïque. On a mis un but qui a été refusé pour hors-jeu. Alors je ne sais pas, je n'ai pas revu les images. Puis cette frappe sur la barre à la fin après les pénaltys. C'est difficile, on le sait. Et c'est dommage pour Alice parce qu'elle est jeune, elle apprend, mais j'ai trouvé que l'équipe avait tout donné. Il y a 2 équipes sur un terrain. Il faut aussi tirer un coup de chapeau à cette équipe d'Allemagne qui s'est qualifiée.
Et les Allemandes affronteront donc les Espagnols en demi-finale. L'autre duel du dernier carré opposera les Italiennes aux Anglaises. L'Angleterre qui avait perdu contre la France lors du premier match de groupe.
En rugby, à présent, pas d'exploit du 15 de France contre la Nouvelle-Zélande.
Ouais, sans surprise, hier soir, les Bleus, même s'ils ont dominé une bonne partie de la première période, se sont inclinés. Ils avaient pourtant ouvert le score dès la 8e minute de jeu grâce à un essai de Nolan Le Garec. À la pause, le 15 de France menait 19 à 17, mais en seconde période, la chance a tourné. Les All Blacks ont repris le dessus pour s'imposer 29 à 19. Le troisième test match en terre néo-zélandaise et donc une troisième défaite pour les tricolores. Pour rappel, sans les joueurs cadres qui sont restés en métropole, les Bleus s'étaient inclinés précédemment 31 à 27 et 43 à 17 le week-end dernier.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
On commençait à s'habituer aux victoires d'étape de Tadej Pogacar, mais cette nuit, sur la 14e étape du Tour de France, le Slovène s'est contenté de la deuxième place.
Oui, dans les Pyrénées, c'est Timen Arensman qui s'est imposé en solitaire. Le Néerlandais seul rescapé de l'échappée du jour pour devancer. Eh bien, le maillot jaune, Tadej Pogacar, donc deuxième, avec 1 minute 7 secondes. Et le Danois Jonas Vingegaard à 1 minute 11 secondes du vainqueur du jour. Côté français, Kevin Vauclin continue d'impressionner. Il termine dixième à 3 minutes 8 du vainqueur du jour.
J'ai donné tout ce que j'avais. Voilà, j'ai dit que je donnerais tout. C'est ce que j'ai fait. Je crois que je prends pas trop de temps sur certaines personnes. Donc, c'était une des plus grosses étapes probablement du tour. Et réussir à être là, avec 5000 mètres de dénivelé, j'aurais jamais parié ça début d'année ou même juste avant le tour. Donc, je pense que c'est que du positif.
Merci. Et Kevin Vauclin, soutenu par le public tricolore, il est désormais cinquième du classement général suite à l'abandon de Remco Evenepoel. Tadej Pogacar est évidemment toujours en jaune devant Jonas Vingegaard, deuxième à 4 minutes 13 du leader. Florian Lipovic complète le podium à 7 minutes 53 de Tadej Pogacar. Ce soir, la 15e étape se disputera entre Muret et Carcassonne, 169,3 km, départ à 22h30 pour nous.
Les sports mécaniques en moto, les week-ends se suivent et se ressemblent.
Oui, avec encore une fois, Marc Marquez sur la plus haute marche du podium de la Sprint Race. Marc Marquez qui a remporté l'épreuve du GP de République Tchèque. Il devance Pedro Acosta et Enea Bastianini. Les Français Fabio Quartararo et Joan Zarco terminent respectivement 5e et 8e. La course à suivre ce soir, départ à 23h pour nous.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Le sport en Calédonie du karting à la une avec une nouvelle manche du championnat territorial qui se déroule ce matin sur le circuit de Nakutakoin. C'est notamment l'occasion pour les meilleurs jeunes pilotes de se préparer aux prochaines échéances en Australie. Deux d'entre eux ont du talent et ils le prouvent régulièrement. Le reportage de vous, Mickaël Juneski.
Je m'appelle Luca Padovez-Robo et j'ai 15 ans. Je pars premier et je finis premier dans la première course. C'est toujours bien de faire des compétitions ici. Bah, c'est chez moi en fait, donc j'adore faire les compétitions ici. La semaine prochaine, je pars en Australie pour le championnat, la quatrième manche du championnat d'Australie à Ipswich. C'est dans la banlieue de Brisbane. J'aimerais bien faire la finale parce qu'on est près de 80, donc c'est mon principal objectif. Donc je fais le maximum ici.
Je m'appelle Raphaël Gilles, j'ai 11 ans et je suis pilote de karting. C'est vachement bien vu qu'on fait une compétition avec des amis. Donc pour moi, c'est pas trop une compétition parce que l'Australie, ça compte un peu plus pour moi vu qu'on cherche des sponsors. Du coup, bah voilà.
T'as déjà réfléchi à quoi faire par exemple une fois que tu seras encore contre les Australiens?
Bah, les doubler, prendre bien mes points de corde, accélérer où il faut et freiner.
Toi, c'est quoi qui te plaît le plus dans le karting?
Bah, de tourner le volant, d'aller super vite et de jouer avec un peu les copains, de faire des bataille et ça.
Les courses pour toutes les catégories d'âge se poursuivent jusqu'en début d'après-midi ce dimanche. Une trentaine de pilotes sont au rendez-vous sur le circuit de Nakutakoin. De la pétanque avec Akumak qui accueille depuis 8h30 ce matin la finale des qualifications de doublette mixte. 26 équipes au départ, mais une seule obtiendra son billet pour les Océania à Wallis. Ingrid Laurent, présidente de la Ligue calédonienne de pétanque et du jeu provençal.
Il faut savoir qu'on a qualifié dans le sud 8 équipes au premier tour de qualif, deuxième tour de qualif, 8 équipes aussi. Dans le nord, on en qualifie 5 au premier tour et 5 au deuxième tour. Il y a les îles aussi qu'on devait qualifier, mais les îles en ce moment sont en pleine structuration de leur club. C'est vraiment une bonne ambiance aujourd'hui. La pétanque, c'est vraiment un sport social, toute ethnie confondue. Et là, il y a vraiment pas mal de monde qui sont joyeux parce qu'ils savent très bien que l'enjeu derrière, c'est de représenter les pays d'Océania à Wallis. Il y a vraiment un esprit convivial, familial surtout, mais ça n'empêche pas qu'il y a de la compétitivité entre eux. Hein. Ah, quand ils sont sur le terrain, chacun des équipes, il déchire tout. Hein.
Et tout le monde va tout donner pour se qualifier pour les Océania de pétanque à Wallis qui auront lieu du 16 au 20 octobre prochain. Du cyclisme sur piste avec les jeunes qui étaient réunis ce samedi au Vélodrome de Magenta pour une nouvelle compétition avec plusieurs catégories représentées. Michael.
La piste s'est désormais largement redynamisée. Les résultats sont au rendez-vous avec des compétitions nationales et internationales dans le viseur des meilleurs. C'est une grande satisfaction pour les encadrants comme Gérard Salin.
C'est important, on a réussi à redynamiser surtout sur piste parce que la route c'est un peu difficile en ce moment. Mais la piste marche très bien. Beaucoup de records qui sont tombés malgré l'état de la piste vétuste. Donc les jeunes battent des records de leur catégorie, donc c'est très important. Ce soir, il y a Louise Chavis qui a encore battu son record personnel féminin en 12,52. C'est bien, et les jeunes montrent un engouement pour la piste. Il y a des jeunes VTTistes qui étaient partis pour faire du VTT qui viennent sur piste, donc c'est intéressant. Puis il y a une émulation, depuis le début d'année, on a un cinquième record battu, donc voilà, ça nous fait plaisir en tout cas.
Et dès vendredi prochain, une soirée sera proposée cette fois en hommage à Jean-Claude Lecourieux, coureur sur route, mais aussi champion de France de demi-fond en cyclisme sur piste, décédé l'année dernière. Un spectacle assuré avec des courses qui débuteront dès 18h30. Ce sera ouvert au grand public.
Voyons en bref le reste des résultats sportifs sur le territoire.
Et du foot, l'avant-dernière journée de Super League est dans le groupe A. Tigasport s'est imposé sur le Mont d'Or 2-1. Gaïcha et Horizon Pasto ont fait un nul, un but partout. Dans le groupe B, victoire de Magenta sur Saint-Louis 5-3 et de Lossy sur Nejeu 4-0. Et puis dans le Lagon, le CNC a organisé hier la troisième manche de son challenge croiseur Sirius Solar à NC. Des conditions difficiles en temps réel comme en temps compensé. C'est Pulpito MLS FCD qui s'est imposé.
Et puis un coup d'œil aux résultats de nos sportifs hors du territoire.
En tennis, Nicolas Ngoudrella et l'équipe d'Océanie Pacifique qui disputent la Coupe Davis. Malheureusement, ils se sont inclinés hier soir contre l'Irak. Le Calédonien a notamment été défait en 3-7, 4-6, 6-3, 6-3. Les championnats de France d'athlétisme et l'ONVille en métropole, la licenciée de Kouma qui a déjà réalisé le meilleur temps des séries sur le 400 mètres pour ce hissé en finale, un chrono de 59 secondes 90 centièmes. On y reviendra en détail dans nos prochaines éditions. En parathlétisme, les Calédoniens ont également brillé au championnat de France élite. Cette fois, c'était à Belfort. La délégation calédonienne a remporté 8 médailles d'or, 2 en argent et 2 en bronze. Pierre Fairbank notamment s'est imposé sur 100 mètres, 400 mètres et 800 mètres fauteuil. Et enfin, à Hawaï, la célèbre Molokai Tuahu s'est achevée. Un parcours de stand-up paddle de 50 km. Et Clément Colmas, le Calédonien, qui a réussi à se classer 19e, 2h15 et 58 secondes d'effort. Il termine également 8e dans la catégorie des 20-24 ans. Un autre cagou engagé, Alexandre Janin, a lui terminé à la 44e place.